Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
18h à Kamalé, c'est dans la région de Koulikoro, même heure à Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. L'Institut d'études et de sécurité ISS pointe la responsabilité des autorités dans la recrudescence des cas d'enlèvement dans son dernier rapport. Selon elle, 318 personnes ont été enlevées pour la seule période de janvier à août 2021. La deuxième phase du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, va bientôt démarrer selon les responsables de sa mise en œuvre. En 2019, un millier d'ex-combattants a rejoint l'armée malienne. Terrorisme et criminalité transfrontalière, le ministère de la Justice entend mener une lutte farouche contre ces deux phénomènes. Je suis Hamsi Toutouré à la présentation à la mise en onde de Nourum Djiri. 935 enlèvements ont été enregistrés au Mali depuis 2017, dont 318 pour la seule période de janvier à août 2021. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Institut d'études de sécurité ISS paru cette semaine. Le document indique que 97% des civils enlevés depuis 2012 sont des Maliens. 62% des enlèvements ont eu lieu dans les régions de Mopti et Ségou. Ces raptes sont imputés aux groupes terroristes et aux milices et groupes d'autodéfense. L'Institut appelle les hommes de médias à mettre l'accent sur la couverture de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays. Mariam Koulibaly.
Dans le document, plus de 33% des enlèvements sont attribués à des groupes armés non identifiés, alors que plus de 17% sont imputés aux milices et groupes d'autodéfense communautaire. Plus de 46% des cas répertoriés entre janvier 2012 et juillet 2021. Il s'agit souvent pour les groupes d'empêcher les retours de l'État, de couper court à toute contestation locale, mais aussi les ravisseurs se serviraient des otages comme monnaie d'échange, explique le rapport. Si le phénomène n'est pas nouveau, le profil des victimes a néanmoins changé selon le document. Maintenant, les personnalités influentes, les journalistes ainsi que les représentants de l'État figurent parmi les cibles les plus fréquentes. Mais la fréquence des enlèvements est telle que la plupart passent inaperçus. Aussi rapporte le document, les enlèvements représentent 3/4 des violences touchant les humanitaires. Historiquement, le ciblage des étrangers a parfois répondu à des motivations stratégiques internes au mouvement djihadiste, conclut le document. L'Institut d'études et de sécurité pointe la responsabilité des autorités face à la recrudescence des cas d'enlèvement.
Ce sont les nationaux qui sont de plus en plus les cibles des enlèvements, car les Occidentaux se déplacent rarement dans les zones à risque depuis 2012, estime Ornella Mondéran, la chef du programme Sahel à l'Institut d'études et de sécurité, explique aussi que depuis la signature de l'accord de paix, les cas d'enlèvement sont plus fréquents qu'au centre, qu'au nord. Elle est jointe au téléphone par Mariam Koulibaly.
Les données dont nous disposons montrent que la majorité des enlèvements se produisent dans des zones qui sont déjà très fortement touchées par d'autres formes de violence, notamment dans les zones rurales du centre du pays où la présence étatique est également faible. C'est tout particulièrement le cas le long des axes routiers et fluviaux, ce qui limite davantage encore la mobilité des populations qui sont déjà isolées par le mauvais état des routes et par la présence d'engins explosifs sur les voies de déplacement.
Depuis 2012, les étrangers visibles, notamment les occidentaux, se sont fait de plus en plus rares dans les zones à risque qui sont fortement déconseillées par les ambassades. Ceci explique en partie pourquoi ils sont moins souvent pris pour cible dans ces incidents.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, la première phase de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion est pratiquement bouclée au dire des responsables du programme. Ils ajoutent qu'un millier d'ex-combattants sur les 4000 prévus a joint l'armée malienne en 2019. Concernant les régions du centre, le coordinateur DDR de Mopti, Oumar Diko, affirme que le programme de Mopti est épuisé. Il précise aussi que la deuxième phase va bientôt démarrer. Oumar Diko, coordinateur de DDR Mopti, est au micro de Mamadou Samasekou.
Sur l'ensemble des régions, je crois que c'est 84 600 ex-combattants qui se sont fait enregistrer et enrôler dans nos registres d'ex-combattants. Maintenant, pour les régions du centre, là, il y a 8400 qui se sont fait enregistrer, sur lesquels, aujourd'hui, on a utilisé que 350. À part quelques éléments de la réinsertion socio-économique qui n'ont pas pu être gérés compte tenu de ce que nous savons tous, l'embargo. Bon, les sites de cantonnement, le partenaire qui est la MINUSMA a freiné en attendant parce que les camps qui sont construits ne sont pas occupés. Donc, dans leur perspective de construire d'autres nouveaux camps, ils se disent, bon, attendons voir, est-ce que ces camps seront réellement occupés par les ex-combattants? Si oui, ça peut les amener à construire d'autres camps. Sinon, je crois que c'est tout ce qu'on va conserver.
Autre sujet, le ministre de la Justice entend mener une lutte implacable contre le terrorisme et le crime organisé. Mamadou Kassogué a réaffirmé cette volonté politique ce jeudi lors de sa visite de courtoisie au pôle spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Il a aussi mis l'accent sur un autre phénomène, c'est le trafic d'êtres humains. Un reportage signé Ali Cissé.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lancé un appel pressant à l'endroit des responsables en charge de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Mamadou Kassogué a invité le procureur du pôle antiterroriste à doubler d'ardeur pour traquer tous les trafiquants d'êtres humains et de terrorisme.
Il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées. Des jeunes gens à la fleur de l'âge sont arrachés à l'affection de l'heure par des trafiquants qui leur font miroiter un avenir meilleur. Et malheureusement, ces gens n'empruntent pas les bons chemins pour y arriver. Ces gens-là, malheureusement, pour la plupart, n'arrivent pas à destination. Ensevelis dans la Méditerranée, ensevelis dans les déserts. Tous ces phénomènes-là, c'est vous qui avez la charge de lutter contre.
De son côté, le procureur en charge du pôle spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale a fait savoir que des acquis ont déjà été enregistrés en la matière. Samba Sissogo.
Dans le traitement de ces différentes procédures, un certain nombre d'entre elles ont connu un dénouement heureux. Entre autres, on peut citer l'attaque du Radisson, le dossier des Fawaz que tout le monde en a entendu parler, qui ont été jugés.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale adaptée aux attentes de la population, le ministre de la Justice exhorte le pôle antiterroriste à accompagner son département.
Comment faire pour que le contenu des manuscrits anciens soit connu par le grand public? Cette question était au cœur d'une conférence débat qui s'est tenue ce matin à Bamako. Plusieurs experts scientifiques ont pris part à cette rencontre afin de trouver les solutions à ce problème. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l'ambassade de l'Afrique du Sud. Mohamed Diaga Yeye est le directeur de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Il est au micro de Mariam Kamba Keïta.
Aujourd'hui, l'Institut, nous avons à peu près 40 000 manuscrits. Ces manuscrits sont bien conservés, bien gardés. Oui, nous remercions l'enseignement supérieur qui nous donne un moyen bien vrai que c'est limité pour ce travail. Mais nous pensons qu'il faut qu'on ajoute beaucoup sur ces budgets parce que sans argent, il est difficile de faire beaucoup de choses. Nous essayons de faire parce que pendant 3 ans, on vient de publier pas moins de 10 exemplaires, 10 œuvres relatives aux manuscrits. Donc, le vrai défi que nous avons aujourd'hui, comment permettre au public d'accéder au contenu de ces manuscrits. Et nous pensons sans la publication, sans les éditions, ça ne serait pas possible. Et quand on dit édition, publication, on dit l'argent parce que ce n'est pas fait gratuitement.
Le mariage entre chrétiens et musulmans suscite un débat depuis des décennies au Mali. Si dans la religion musulmane, il est interdit pour une femme d'épouser un homme qui ne croit pas en son prophète, se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien dans la communauté chrétienne est soumis aussi à des conditions. Aïssata Diarra.
J'ai rencontré une fille chrétienne avec laquelle je voulais me marier, mais les parents ont refusé parce que je n'étais pas un chrétien. On a fait à peu près 3 ans de lutte comme ça.
J'ai rencontré un chrétien en 2011-2012. On voulait se marier, mais mon papa avait montré sa position. On a tout fait.
C'est l'affirmation de certaines personnes qui n'ont pas pu avoir la chance de se marier avec leur partenaire des religions différentes. Pourquoi la religion musulmane émet des réserves sur le mariage d'une femme musulmane à un homme des religions différentes? Diallo Mahamadou Moussa, imam de la mosquée de Torokoroboko, nous donne les raisons.
Tout simplement parce que nous croyons en Dieu unique, nous croyons à l'ensemble des prophètes. Mm-hmm. Un chrétien ne croit pas à Mahomet, quoi l'islam n'accepte pas.
Pour consommer un mariage entre un catholique et une personne d'une autre religion, l'évêque doit donner un document qui autorise les mariages, affirme Abbé Kizito Togo, curé de la paroisse de Mopti.
La partie qui est musulmane doit accepter de laisser la partie catholique suivre sa religion. La partie musulmane doit aussi accepter le mariage, il est monogamique, l'indissolubilité. L'éducation chrétienne des enfants doit être garantie. Si la partie musulmane refuse, elle ne pourra pas faire ce mariage à l'église.
Cependant, les rêves de beaucoup de jeunes restent brisés à cause de cette situation.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Comment renforcer la capacité des organisations de la société civile sur les dangers de la prolifération des armes légères et dépôts volontaires des armes? La question était discutée lors d'un atelier à Gao qui a pris fin hier. Les élus, les imams, les jeunes et les femmes ont participé à cette rencontre. L'activité a été organisée par le secrétariat permanent de la récupération des armes légères et de petit calibre. Le directeur de la radio Montien de Tomignan, Gustave Dako, est décédé hier mercredi. Son enterrement est prévu ce vendredi à 10h à Tomignan. Nous rappelons que la radio Montien est partenaire de Studio Tamani, que son âme repose en paix. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant, le magazine. La 15e édition d'Oxygène a débuté lundi dernier 6 septembre 2021 à Koulikoro. Plus d'une cinquantaine d'enfants venus de toutes les régions du Mali y participent. Protection sociale dans un contexte de Covid-19. Quelle réponse à la vulnérabilité des enfants au Mali? C'est le thème retenu pour cette édition 2021. Cependant, la rencontre a lieu à un moment où la situation des droits des enfants dans le pays est jugée peu reluisante par certains acteurs du domaine. Le magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse aujourd'hui à la question. Il est présenté par Adama Amadou Haïdara.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Enfants sont privés de leur droit à l'éducation dans le pays. Cette déclaration est faite par le président du Parlement des enfants du Mali lors de la 15e édition d'Oxygène. Mais ce ne sont pas là les seuls problèmes qui entravent l'épanouissement des enfants dans le pays. Il cite aussi l'insécurité, la mendicité. Noum Chérif Haïdara, au micro de Zoumana Naïté, notre correspondant sur place.
Nous admettons quand même qu'il y a eu des avancées. Jusque-là, des problèmes persistent encore. Parce que nous avons quand même 1532 écoles. Et plus de 400 000 enfants en dehors du système éducatif, ce qui n'est pas normal. Il y a des cas d'enfants esclaves, des enfants en mobilité. Et donc la situation n'est pas très reluisante, mais elle n'est pas très catastrophique non plus. Que ce droit puisse être intégralement respecté, je crois que nous pouvons faire un plaidoyer. Juste le plaidoyer, l'information, la sensibilisation. Et maintenant, le reste est aux autorités compétentes d'être sensible à ces informations, à ces plaidoyers, afin de prendre les dispositions pour le bien-être commun.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
À Bafoulabé, le nombre d'enfants atteints du paludisme grave s'accroît dans la commune rurale de Bamafélé. L'information est donnée par les agents sanitaires de la localité. Selon les DTS, directeurs techniques du CESCOM, les causes principales sont l'hivernage et le retard de la campagne CPS. À 100 sur une prévision de plus de 96 000 enfants, 100 538 ont reçu leur dose de vaccin préventif contre le paludisme, soit un taux de plus de 100% selon le chargé des informations sanitaires du district. C'était hier lors d'une journée de restitution. Les enfants de 3 à 59 mois étaient ciblés. La campagne a couvert les 36 communes du CERD. À Bamako, deux nouveaux-nés abandonnés ont été retrouvés la semaine dernière par le commissariat du 16e arrondissement. Les bébés de sexe féminin ont été aperçus deux jours successifs par des passants à Soutiba Asseyi, en commune 2 du district de Bamako. Selon des sources policières, les nourrissons sont en ce moment à la brigade des mœurs. Les mamans restent introuvables. C'est la fin du magazine Tous les enfants du Mali. À la semaine prochaine.
C'est C'était le magazine Tous les enfants du Mali.